Enrico Macias, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes ce qu'on appelle un chanteur populaire, vous êtes connu comme le porte-parole des Pieds Noirs, mais pas seulement. Je vais citer parmi vos tubes Enfants de tout pays, Donnez-moi, Le mendiant de l'amour, et évidemment, Ah qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Vous avez vendu plus de 50 millions de disques dans le monde entier, je veux dire pas seulement en France. Vous allez fêter vos 55 ans de carrière en 2017 d'ailleurs, est-ce que vous allez les fêter ou pas ?
J'ai fêté mes 50 ans de carrière.
Oui.
Mais au-delà des 50 ans, j'ai pas calculé.
En fait, plus. Ah, je vais vous dire. Les 50 ans, c'était en 2012. Donc les 55, ça sera en 2017.
En 2017, on va les fêter. Alors.
Ah, voilà. Et vous avez publié il y a peu de temps votre autobiographie. Ça s'appelle L'envers du ciel bleu, qui montre que vous êtes loin de l'image toujours souriante, poi, 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 que vous donnez parfois. Mais on va en reparler. Mais d'abord, votre actualité immédiate, c'est la sortie d'un nouvel album. Il s'appelle Les Clés. C'est quoi l'idée de ce disque ? Ce sont des clés pour ouvrir quelle porte ?
C'est pour ouvrir deux portes. La porte du passé et la porte de l'avenir. Parce que moi, tout le temps, dans mes chansons, dans mes créations artistiques, j'ai toujours eu la nostalgie de mon pays, et avec une certaine tristesse, mais j'ai toujours ajouté l'espoir et l'espérance. Donc j'ai à la fois un côté triste, mais un côté aussi optimiste.
Le disque a été réalisé, c'est-à-dire qu'il a fait le son par Jean-Claude Grenassia, c'est qui ?
Mon fils.
Ah, c'est votre vrai nom, Grenassia ?
Mais mon vrai nom, c'est Grenassia.
Et quel effet ça fait de travailler avec son fils et que ce soit lui qui vous dise « Dis donc, là, c'est pas bien, là, chante plus fort, là, moins vite, là, non, là... »
Ah, alors là, au début, quand je devais travailler avec lui, j'étais content. Il était, avant de travailler avec lui, il était assez critique. J'ai dit au moins là, bon, on va être impliqués tous les deux en même temps et tout. Et puis, j'étais étonné la façon dont il m'a fait chanter.
Étonné par quoi ?
Étonné par le fait qu'il m'a fait changer ma façon de chanter.
Ah oui ?
Complètement. Il m'a fait approcher du micro et il m'a fait moins crier. J'étais plus intimiste.
C'est vrai ?
Et c'est grâce à lui...
Ah je savais pas, c'est vrai que c'est plus apaisé quand on vous entend.
Oui, et moi je comprenais pas. Alors on a eu des petits clashs au début, puis après finalement... Je suis devenu, moi, son fils et lui, mon père.
Voilà, ça allait être ma question. Vous avez commencé la musique avec votre père. Quel effet ça fait de se faire engueuler par son fils ?
C'est comme si j'étais engueulé par mon père.
Et vous lui avez dit, dis donc, t'es pas mon père ?
Je lui ai dit, écoute, je suis ton père et tu es mon fils, mais au studio, je t'écoute, carte blanche, je veux plus m'énerver après toi, c'est toi qui as raison.
Juste un mot, est-ce que vous allez partir en tournée ?
Oui, je vais partir en Turquie, en Égypte, en Israël, là où c'est très très chaud. Et parce que j'accompagne toujours mes paroles par des actes. Et si je suis chanteur de la paix, c'est parce que justement je vais sur le terrain pour m'exprimer, puis pour envoyer des messages de paix dans toutes ces régions où ça chauffe.
Juste un mot de politique, Enrico Macias. En 88, vous aviez soutenu Mitterrand. En 92, pour les élections régionales en PACA, vous étiez candidat sur la liste Énergie Sud de Bernard Tapie. En 2007, vous avez soutenu Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Pareil en 2012. Et en 2014, pour les municipales à Paris, vous avez encore changé de camp et vous avez soutenu Anne Hidalgo. Pourquoi tous ces revirements ?
Ce ne sont pas des revirements. Ce sont tout simplement des élans d'amitié, de générosité. Et sans aucune, connotation
politique,
ni d'idéal politique, ni de parti politique. Je ne m'engage que pour des hommes auxquels je crois, ou des femmes auxquelles je crois.
Quelque chose qui m'amusait, c'est vous qui l'avez révélé, que quand elle a su que vous souteniez Anne Hidalgo, l'épouse de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, son vos termes, vous a passé un savon. Qu'est-ce que vous lui avez répondu ?
Je voudrais pas rendre public ce savon. Mais alors que moi, j'avais appelé Nicolas Sarkozy avant, et lui, il a été très sympa. Il m'a dit, ne me dis pas que cette nouvelle me fait monter au plafond. Mais enfin, tu es libre, tu fais ce que tu as à faire et il n'y a pas de problème. Donc, je m'étais dédouané vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Et quand le lendemain, elle m'a appelé pour me passer ce savon, j'ai pas apprécié. Et je lui ai dit, n'oublie pas que tu étais de gauche avant d'épouser Nicolas.
Enrico Macias, avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Enrico Macias, avec nous, chanteur populaire qui sort un nouveau disque. Il s'appelle Les Clés, c'est au pluriel. Et en même temps, Il y a quelque temps, vous avez publié « L'envers du ciel bleu ». C'est une sorte d'autobiographie qui montre que vous êtes loin de l'image toujours souriante que vous donnez parfois. Vous vouliez plus vivre dans le mensonge ? Les gens avaient une fausse image de vous ? C'est assez grave ce que vous racontez.
Non, c'est pas grave parce que j'ai tout le temps voulu donner de moi une image festive, une image pleine d'espoir, une image de gaieté, parce que les gens, quand ils regardent les informations, ils sont déboussolés avec tout cette... Moi, je rêve d'un journal télévisé où on raconte que des bonnes nouvelles.
Ils ont essayé, vous savez ? L'audience était nulle.
Oui, les gens, on dirait qu'ils aiment les mauvaises nouvelles. Bon, enfin. Donc, j'ai toujours voulu faire oublier les soucis de la vie quotidienne des gens.
Ouais.
En les amusant, les distrayant.
Alors pourquoi avez-vous changé cette fois-ci ? Pourquoi ?
Non, j'ai pas changé, j'ai jamais changé. J'ai voulu expliquer ma face cachée, ma vraie personnalité, c'est-à-dire que en nous, il y a toujours deux personnalités. Il y a mon image festive et puis il y a aussi mes souffrances et mes douleurs.
Voilà. Vous racontez votre carrière, la mort de votre épouse Suzy, avec qui vous êtes resté près de 50 ans, et surtout vous racontez votre enfance en Algérie, je commence par là. Vous écrivez « Il faut comprendre à quel point cette guerre est atroce. Ce n'était pas une guerre d'Algérie contre la France, mais une guerre à l'intérieur de chacun. » Expliquez. Parce qu'il y avait les chrétiens, il y avait les colons, il y avait les musulmans, il y avait les juifs. Tous ces gens-là vivent ensemble, notamment là où vous étiez, à Constantine.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on ne comprenait pas pourquoi d'un coup, ces gens-là qui vivaient bien ensemble se sont déchirés. Tout ça à cause d'un problème politique ou d'un problème de territoire ou je ne sais pas, d'indépendance. Vous savez, l'indépendance de l'Algérie, ce n'est pas seulement à cause de la colonisation, c'était aussi le panarabisme, c'était aussi le fanatisme, c'était beaucoup de choses. Donc, et puis aussi la jalousie des musulmans qui n'ont pas apprécié le fait que seulement les juifs ont eu, par le décret Crémieux, la nationalité française. Alors tout ça s'est mélangé et on a une opinion de la guerre d'Algérie. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour mettre au point tout ça.
C'est les passages les plus marquants vraiment dans votre livre. Par exemple, beaucoup de juifs, racontez-vous, qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie, se sont engagés avec le FLN. Mais ensuite, ça s'est très très mal terminé pour eux, avec le FLN.
Oui, les communistes et les juifs qui se battaient aux côtés du FLN ont été fusillés. Et je le sais parce que je raconte d'ailleurs une histoire fabuleuse dans le disque avec mon frère Delay, qui lui est parti combattre avec le FLN. Et il m'attendait à l'aéroport de Tunis pour le sauver parce qu'il s'était échappé. Parce que on tuait tous les juifs et tous les communistes.
Melki, il s'appelait, je ne me souviens plus de son prénom.
Jacques Melki.
Je vais parler de vos débuts dans les médias, c'est page 117. J'ai découvert que vous parliez, et même vous-même racontez que vous avez découvert, que vous parliez sans accent dans vos premières interviews.
Oui, alors ça, c'est un petit peu comme tout le monde qui parle au téléphone.
Ouais.
Remarquez, par exemple, un Marseillais. Un Marseillais avec son accent, là, comme ça. Ben, quand il parle au téléphone, il change d'accent.
Et donc, vous savez parler avec l'accent pointu.
Mais bien sûr, quoi, alors ? Mais bien sûr, ben alors ?
C'est drôle. Parfois, on vous sent vexé. Par exemple, Guy Bedos qui dit « Enrico, c'est un pied noir couscous, moi, je suis un pied noir intello. » Pourquoi l'avez-vous mal pris, cette phrase ?
Je l'ai mal pris parce qu'il a oublié que moi aussi, j'étais instituteur comme lui.
Ouais.
Et que je suis fier d'assumer mon côté pied noir couscous parce que j'imagine que lui, quand il mange un bon couscous, il est bien content. Alors je ne comprends pas pourquoi il parle comme ça. C'est de me rabaisser.
Vous lui avez dit ?
Bien sûr.
Il a répondu quoi ?
Comme d'habitude, il se défend en rigolant.
Est-ce que vous avez réglé vos soucis d'argent ? Je ne vais pas vous en reparler, mais c'est une telle affaire. Le ciel vous est tombé sur la tête. Est-ce que c'est réglé, cette histoire ?
Cette histoire ne m'a jamais atteint, personnellement, parce que c'est un montage qui a été fait par la banque en nous donnant de l'argent pour faire des malversations.
Mmh.
Alors finalement, maintenant, ils ont été tous attrapés. Ils vont être déférés au tribunal correctionnel et j'attends le verdict.
Ouais, mais vous êtes toujours locataire à Paris, alors qu'avec une carrière pareille, vous devriez être tranquillou.
Mais je vais être tranquillou le jour où on lèvera mon hypothèque officiellement.
Bon, ça sera quand ?
Ça sera dans quelques mois, même quelques semaines peut-être.
Enrico Macias, avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Enrico Macias, avec nous, L'envers du ciel bleu, c'est votre autobiographie et Les Clés, c'est votre dernier disque qui vient de sortir. Enrico Macias, c'est un pseudonyme, Mais est-il vrai que vous avez découvert votre pseudonyme sur la pochette de votre premier disque ?
C'est-à-dire que sur la pochette de mon premier disque, c'était mon vrai nom, Gaston Grenassia.
Alors le second ?
Alors, c'était, et le directeur artistique m'a demandé de changer mon nom, d'avoir un nom qui correspondait plus à mes chansons, au style de mes chansons. Un nom méditerranéen, disons, espagnolisant. Alors bon, j'ai choisi de couper le greu, j'ai dit Nassia. Et Enrico, c'était parce que je jouais quand j'étais jeune avec des guitaristes gitans qui s'appelaient les frères Enrico.
D'accord.
Et moi, j'étais le petit Enrico.
Mais alors, comment Nassia est devenu Macias ?
Parce que quand j'ai téléphoné à la standardiste, je lui ai dit, ça y est, j'ai trouvé mon nom. C'est Enrico Nassia. Et elle a compris Macias et c'est devenu Macias.
Et alors, ce que je trouve de dingue, c'est que vous avez découvert Macias sur la pochette du disque.
Ah ben oui, mais j'ai pas voulu rechanger une autre fois. Hein.
Vous avez pris des cours d'arabe à Constantine ?
Oui.
Et alors, ce qui m'a frappé dans votre livre, j'arrive pas à croire que ce soit vrai, la première phrase du cours d'arabe dialectal que vous prenez, dites ce que vous lisez.
La première leçon, c'était « Le Mozabite économise de l'argent mieux qu'un juif ».
Wow.
C'est la traduction littérale. Hein.
Mais qu'est-ce que ça vient faire là, dans des cours d'arabe ?
Ben justement, c'était en même temps une occasion d'apprendre plusieurs mots. Mais ça m'a fait mal d'entendre ça.
Est-il vrai que Ben Laden, le patron d'Al-Qaïda, avait tous vos disques dans son repère secret en Afghanistan ?
Alors, franchement, quand on m'a annoncé ça, j'ai cru que c'était une farce.
C'est un document de la BBC, je précise.
Et c'était un document de la BBC, je me suis renseigné, c'était vrai. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis encore étonné de cette chose.
Au passage, il avait plus de 1500 cassettes, pas toutes de vous, alors que la musique, théoriquement, était interdite du temps des talibans.
Mais oui. Mais il écoutait peut-être en cachette, dans sa cachette. Il écoutait mes chansons et les discours de Gandhi.
Il aurait mieux fait de plus les écouter, d'ailleurs. Est-il vrai que vous allez prendre la nationalité israélienne et quitter la France ?
On n'a pas compris ce que j'ai voulu dire.
Ah, dis donc, c'est page 227 de votre livre.
Non.
Oh. Alors, dites-moi, justement, ça m'a étonné.
Non.
Je n'ai pas encore la nationalité israélienne, mais je sais déjà que je conserverai ma nationalité française. Ça veut dire que vous allez la prendre. Et c'est un chapitre qui s'intitule « Aliyah ».
Oui, c'est-à-dire que chaque juif, son rêve, son idéal, c'est de faire son aliyah en Israël, un jour ou l'autre. Mais quand je me suis aperçu qu'il y avait une montée d'antisémitisme en France et que tout le monde ne peut pas partir en Israël, à ce moment-là, j'ai décidé de rester en France et de ne pas fuir mes responsabilités. Je veux être le dernier à partir. Mais un jour... je partirai.
Dernière question. Est-il vrai que vous avez failli rater votre mariage parce que la veille, vous avez pris une cuite monumentale ? C'est vrai,
c'est la vérité. C'est la vérité. J'avais rendez-vous à midi, je suis arrivé à 3 heures.
Et vous êtes arrivé dans quel état pour le mariage ?
Un état complètement comateux, quoi. Mais j'avais, avec le tailleur qui devait faire mon costume de mariée, je lui ai dit, bon, ben, on va arroser le costume, on va aller dans un café, on va boire... Et on m'a servi un Ricard, je vous jure. Le Ricard était plus grand que l'eau qu'on mettait dans le Ricard. Et on en a bu 4 ou 5. J'étais complètement sous. Complètement. J'avais pas l'habitude de boire.
Mais alors après, comment ça s'est passé ?
Eh bien après, il m'a emmené dans un cabaret algérien. Il y avait beaucoup d'Algériens dans la salle. Et je venais de perdre Tonton Raymond, assassiné. Et là, comme j'étais sous, tout est revenu. Je me suis rappelé de la mort de Tonton Raymond. Et quand j'ai vu tous les Algériens dans le... Je suis monté au micro et je les ai tous insultés. Et je ne sais pas comment je suis encore en vie. Je ne sais pas. Et je me suis retrouvé dans mon lit sans savoir comment.
Et votre femme a quand même voulu de vous, ivre mort.
Quand je suis allé à Argenteuil pour me marier, j'étais pas ivre mort, j'avais dormi.
Ah, d'accord.
J'avais dormi, j'avais récupéré.
Merci beaucoup, Enrico Macias, d'être venu nous voir.
Merci beaucoup.